Lacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 16h pour parler de vous, de notre société. À mes côtés, comme d'habitude, chaque jour, ma camarade Ombline, bonjour ma chère.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, les épreuves que vous avez traversées car votre vécu nous intéresse. Selon le ministère de la Justice, 4 affaires de violences sexuelles sur 10 seraient des agressions sexuelles sur des mineurs. Un chiffre qui est largement sous-estimé quand on sait que de nombreuses victimes n'osent pas parler. Certaines étaient trop jeunes pour réaliser la gravité des faits. À cela s'ajoute aussi un sentiment de honte et de culpabilité. D'autres enfouissent ce traumatisme dans leur mémoire ou ont subi des menaces et des intimidations de la part de leur agresseur. Toutes restent marquées à vie par les agissements de cet agresseur qui est une connaissance dans près de 90% des cas. Alors comment encourager les enfants à parler quand on sait que dans 70% des cas, la parole de l'enfant est remise en doute quand il s'agit de la famille? Comment briser le tabou? Pédocriminalité, comment libérer la parole? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires car nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le standard d'Europe 1, le 39 21 50 centimes la minute, on vous attend jusqu'à 16h. Vous n'hésitez pas également à nous écrire Twitter hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Adélaïde Bon, auteur du livre La petite fille sur la banquise qui est disponible aux éditions Grasset. Bonjour Adélaïde, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci beaucoup. Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors, je vais résumer un peu votre histoire. Un soir de 1990, vous étiez alors âgé de 9 ans. Vous avez subi un viol commis par un homme qui sévissait dans le 16e arrondissement de Paris. Des années plus tard, vous avez appris que vous n'étiez pas sa seule victime. D'abord, comment approchait-il ses victimes, cet homme ?
Comme la plupart des violeurs en série, il avait un mode opératoire qui était souvent le même et qui était de se faire passer pour un électricien ou pour un concierge ou pour quelqu'un qui travaillait dans l'immeuble et de demander de l'aide aux enfants, enfin aux petites filles en l'occurrence, qu'il violait surtout uniquement des filles qui étaient là, voilà, et leur demandait un coup de main.
Et lorsque on dit que vous avez appris que vous n'étiez pas sa seule victime, il a fait combien de victimes cet homme ?
Ah, alors ça, c'est une grande question. Les policiers en ont 72 sur 10 ans.
72
sur ces 72, seuls 35 sont passés parce qu'il y a la plupart ont été après le... Ah, excusez-moi.
Je vous en prie. Après le jugement
la...
Ah oui, le délai de prescription.
Voilà, exactement. C'est parce que je suis en Angleterre et que je parle anglais toute la journée. Donc
d'accord.
Et puis que l'immense majorité d'entre elles n'ont pas porté plainte, et c'est que sur 10 ans, on sait qu'un pédocriminel sévit en gros à partir de 15 ans, il a été emprisonné à 72 ans, donc on estime à au moins un millier de victimes, les victimes de Giovanni Costa.
Et ce qui est incroyable lorsqu'on vous entend, c'est de se dire que cet homme a pu agir aussi longtemps. Et ce chiffre, finalement, traduit ce que nous disions en préambule de cette émission, c'est qu'on a du mal à raconter lorsqu'on a subi une telle agression. Vos parents ont-ils compris qu'il vous était arrivé quelque chose ? Est-ce que vous leur avez dit quelque chose ?
Mes parents m'ont vu rentrer et aller directement dans ma chambre, ce qui ne m'arrivait pas parce que j'étais une petite fille très joyeuse qui racontait tout le temps tout à tout le monde.
Oui.
Et donc, ils se sont doutés de quelque chose et ils m'ont un peu tiré les verres du nez. Mais moi, j'étais dissociée, j'étais en amnésie traumatique, donc je ne leur ai raconté que ce dont je me souvenais. Et comme j'étais extrêmement calme, étant dissociée, ils se sont dit « bon, ben, on a échappé au pire ». J'avais à l'époque pas la mémoire de la pénétration, donc les policiers, ils m'ont emmenée au commissariat, les policiers ont appelé ça des attouchements sexuels. Et c'est des années plus tard qu'une partie des souvenirs de la mémoire traumatique est remontée et que j'ai compris qu'il y avait eu pénétration et que donc c'était un viol.
Et que donc, vous aviez donc vécu un véritable choc, ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Donc vous avez déposé le soir même une plainte pour attouchement sexuel et non pour viol, comme vous venez de le dire. Vous dites qu'à l'époque, personne n'était formé à recueillir la parole d'un enfant. C'est ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes allé porter plainte ?
Oui, d'autant qu'un enfant n'a pas de mots pour raconter ça. D'ailleurs, il en manque dans la langue française des mots pour raconter les violences sexuelles. Et notamment, je me souviens que J'ai raconté à la policière qu'il m'avait forcé à lui toucher le sexe de haut en bas et je ne savais pas comment appeler ça, je ne trouvais pas le mot et elle m'avait dit bah, « c'est une caresse ». Et je lui avais dit bah, « non, bah, non, c'est pas ça une caresse ». Et elle avait écrit « caresse » parce qu'elle n'avait pas d'autres mots non plus à disposition. Pour moi, ça fait partie des énormes problèmes de la libération de la parole, c'est que le vocabulaire qu'on a est celui du désir, est celui de la sexualité, est celui de la relation. Or, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de plaisir dans la violence sexuelle.
Bien
et donc,
évidemment.
Pour le qualifier, pour une victime, c'est extrêmement difficile parce qu'il ne dispose, la victime ne dispose pas de mots pour dire ce qui lui est arrivé.
Alors aujourd'hui, bien évidemment, les choses ont un peu évolué quand même avec la brigade des mineurs et on a tout de même de plus en plus de policiers et de femmes aussi qui sont formés à justement aller sur un territoire où des mots peuvent traduire ce qu'a subi comme choc un enfant. En tout cas, vous expliquez que vous avez cheminé hein, pour arriver à vous dire que vous avez été violé en fait. Par quel chemin vous êtes passé pour que tout cela remonte en fait ?
J'ai fait des années et des années de thérapie, toutes sortes de thérapies. Déjà parce que je ne faisais pas les liens entre cet événement de mon passé et tous les symptômes dont je souffrais, que je n'appelais pas symptômes à l'époque. Hein. Enfin, pensais que j'étais folle, je pensais que j'avais que j'étais violente, je pensais que j'étais perverse et je me haïssais férocement. Mais dans le même temps, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas tout à fait normal. Donc j'ai essayé par tous les moyens d'aller mieux. Et c'est dans une thérapie corporelle que le premier souvenir est remonté. Il m'a pénétré de diverses manières, mais l'une des façons, ça a été une pénétration digitale. Mais à l'époque, je n'ai pas pu mettre le nom viol dessus parce qu'en fait, je ne savais pas. Ouais. Pour moi, un viol, c'était le stéréotype du viol.
Oui, oui, oui. Mais comme voilà. Pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ne savent pas que toute pénétration, c'est un viol.
Et c'est des années plus tard, quand j'ai lu la définition du mot viol, que j'ai pu pour la première fois me saisir du mot et me dire, mais en fait, c'est normal que tu ailles mal, c'est que quelqu'un t'a fait ce mot-là, quelqu'un t'a violé, quelqu'un t'a... Voilà. Et donc peut-être que toute cette souffrance, elle a un sens, peut-être parce que c'est qu'on t'a fait ce mot-là, et ce mot m'a sauvée, j'avais vraiment besoin de mettre les bons mots aux bons endroits. Très important dans ma reconstruction.
Adèle Edmond, vous restez bien évidemment en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre histoire et voir comment vous avez cheminé depuis et surtout comment, à un moment, vous avez pu mettre vraiment des mots et en faire part et commencer à cheminer beaucoup plus vite sur le choc que vous avez subi.
Europe 1. Des enfants abusés sexuellement, vous en avez été victime. L'un de vos proches, votre enfant, si vous souhaitez témoigner, vous n'hésitez pas à nous appeler. 3921, vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons de la pédocriminalité, des agressions sexuelles et toute forme d'abus commis sur des enfants, des jeunes mineurs. On vous écoute cet après-midi au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Adélaïde Bon qui nous racontait qu'à 9 ans, elle n'avait pas pu tout de suite dire et prendre la mesure de ce qui venait de se passer, qu'elle avait été victime d'un viol de la part d'un homme habitant le 16e arrondissement qui a fait de nombreuses victimes. On parle de plusieurs centaines de victimes. Impossible pour vous, Adélaïde, de raconter cette histoire, car choquée et victime de ce que l'on appelle cette amnésie traumatique qui est provoquée par ce type d'agression. Adélaïde, dans votre récit, vous vous battez contre les méduses. Pourquoi avoir choisi cette métaphore ?
Je cherchais quelque chose qui puisse expliquer comment on peut passer une journée ensoleillée avec des amis, aller bien, et comment tout d'un coup... la vie ne vaut plus d'être vécue et on a des images de mort et de violence et de haine et c'est incompréhensible de pourquoi tout d'un coup on bascule. C'est comme si on marche à l'endroit et tout d'un coup le monde entier bascule et tout est sombre. Mmh. Et les méduses attaquent sans qu'on les voit venir, elles sont transparentes, elles sont... Voilà, c'était une des raisons. Et l'autre raison, c'est que finalement, ces symptômes qui ont été si difficiles à vivre... ont été, au moment de ma guérison, on peut dire ça comme ça, des indices. Et les méduses sont des créatures magnifiques, très belles. Et voilà, en regardant mes symptômes, ça m'a permis de retrouver petit à petit la mémoire qui avait été enfouie par l'amnésie. Et c'est en suivant mes méduses, finalement, que j'ai retrouvé ma vie en entier, ma vie à l'endroit.
Mmh. Arrivez-vous à dire à vos proches, à votre compagnon, ce que vous aviez subi, à parler de cette douleur que cela avait provoquée dans votre vie ensuite, cette douleur post-choc, post-viol.
Bah, ça a mis des années déjà parce qu'au début, je ne savais pas que c'était lié à ça. Oui. Donc j'allais très mal, mais je pensais que c'était de ma faute et je pensais que j'étais folle. Et donc j'en parlais à personne et puis j'avais tellement besoin que les gens m'aiment et que jamais de la vie, je leur en aurais parlé. Oui. Mes amis proches savaient que voilà, j'avais des moments où j'allais très mal et où je m'isolais, mais j'en parlais à personne.
Écrire, ça a été libérateur pour vous. C'était pouvoir dire l'indicible, la violence, tout dire.
Absolument. Alors, ce livre-là, je ne l'ai pas et que ça n'a pas été une écriture thérapeutique. De l'écriture thérapeutique, j'en ai fait toute ma vie avant. Oui. Et ça m'a fait un bien fou parce que je crois que c'est très intéressant, très important, en fait, pour redevenir sujet. Écrire son histoire, ça permet de reprendre les rênes de « c'est mon histoire, c'est à moi que c'est arrivé ».
De votre vie, oui.
Mais je ne suis plus l'objet de cette histoire qu'on m'a imposée. Mm-hmm. Et je peux en être sujet. Et bien sûr que d'écrire le livre, ça m'a aussi beaucoup aidée. Je crois que ce qui est important pour les victimes, c'est trouver une réparation symbolique. Et je pense qu'il y a plein de manières différentes d'obtenir ça. Enfin, il faut réparer son corps, il faut avoir un endroit où parler avec des gens compétents. Si on peut avoir une réparation judiciaire, c'est formidable, mais c'est tellement rare. Hein. C'est 0,3% des pédocriminels qui sont en assise aujourd'hui. C'est-à-dire que la France, c'est l'Eldorado des violeurs d'enfants.
Oui, on continue malgré tout, et ça n'est pas qu'une rumeur. Il est vrai qu'on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à croire en la parole de l'enfant, ce qui me paraît assez incroyable, mais on l'évoquait dans une émission qu'on a fait il y a quelques semaines, 70% de cas d'agression sexuelle commis sur des enfants. Et bien dans 70% de ces cas, lorsque c'est dans la famille, et bien la parole de l'enfant n'est même pas mise en doute, elle n'est pas entendue. Ce chiffre parle de lui-même. 23 ans après les faits, vous avez été contacté par la brigade des mineurs après l'arrestation de votre agresseur. Il y a eu un procès. Quel a été le verdict et qu'avez-vous ressenti au moment où cet homme a été accusé, enfin condamné même, pardonnez-moi.
Il a eu 18 ans. Bon, après il a fait appel, mais c'est pas très grave. Enfin,
il a fait appel.
Oui, mais après, il est malade et il a fait tout un. Bref, je vais pas m'étendre sur l'appel parce que c'est désespérant et que le jour où il sera mort et mourra bientôt parce qu'il a 83 ans, le verdict de la première instance sera celui qui vaudra. Donc, il deviendra coupable au jour de sa mort.
Mmh. Alors,
ce qui me va. Voilà.
Ça vous a tout de même soulagé de savoir que cet homme mourrait en prison.
Absolument, c'était important pour moi. Et ce qui était extrêmement fort et puissant, c'était de rencontrer les autres victimes.
Oui, j'allais vous le demander justement.
Cette sororité, rencontrer, ça a été peut-être une des choses les plus belles et les plus fortes de ma vie. Découvrir qu'il y avait de la tendresse en moi et que cette tendresse, j'arrivais à l'exprimer avec elle, ça a été le début du renouveau. Et il y avait une chose que j'avais très envie de dire. Hier, j'ai assisté à une chose extraordinaire. Une victime qui m'a invitée, qui n'a elle pas pu avoir de réparation judiciaire parce que le coupable, son oncle, était mort.
Oui.
Elle nous a emmenés sur sa tombe, on était 8, avec un violoncelliste. Et on a chanté, on a dansé, on a ri, on a crié. Et c'était extrêmement réparateur et simple et joyeux. Et je crois que comme on ne va pas attendre 30 ans que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités et change la loi, il est bon que chacun invente des manières de se réparer ensemble, collectivement, qui soient créatives, qui soient joyeuses. Et je crois que c'est possible. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, ce qui s'est passé hier avec cette femme formidable qui a organisé ça.
D'où l'importance.
J'avais vraiment envie de dire ça. Voilà.
Bien, écoutez, c'est dit. D'où l'importance pour les parents qui nous écoutent, pour les plus jeunes, de lire votre livre, La petite fille sur la banquise, aux éditions Grasset, pour déjà connaître votre chemin et voir de quelle manière vous vous êtes réparé, Adélaïde. Mille merci d'avoir pris de votre temps cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, j'ai envie de vous dire bon vent, car je sens que la vie s'ouvre à vous depuis un moment, maintenant totalement. Donc, belle et bonne vie en Angleterre, ma chère. Dans un instant, nous allons accueillir Inès Gauthier. Elle est psychologue, clinicienne, spécialiste en psychocriminologie et dans la prise en charge des victimes et auteurs de violences sexuelles.
Europe 1.
Des enfants, des jeunes victimes de crimes à caractère sexuel, comment lutter contre, comment libérer la parole? On vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des abus sexuels commis sur des mineurs, le fléau de la pédocriminalité. On vous attend au 39 21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Inès Gauthier, psychologue clinicienne, spécialiste en psychocriminologie et dans la prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs de violences sexuelles. Bonjour madame. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Merci.
Il existe très peu de chiffres autour de la pédocriminalité, car beaucoup de victimes, hein, on l'a souligné, n'osent pas parler. Pourquoi est-ce si encore tabou, et notamment en France ?
Alors oui, parce que le sujet de la pédocriminalité est très diabolisé. Alors on le voit beaucoup dans les films, on le voit beaucoup dans les médias. Et actuellement, avant ça pouvait être autre chose, ça pouvait être les parricides, les meurtres de la famille, des parents, etc. Et maintenant c'est retombé sur la pédophilie, la pédocriminalité, sachant qu'on touche au monde de l'enfance, qui est un monde sacré, qui renvoie à l'innocence, etc. Donc cette image qui est diabolisée aussi participe du syndrome du bouc émissaire, où on a besoin de renvoyer quelque chose de négatif sur une personne ou un thème, un objet, un problème identifié et précis.
Oui.
Et en fait, la seule chose que j'aimerais signaler à ce niveau-là, c'est que ça peut s'avérer contre-productif, puisque en fait, il y a beaucoup de personnes qui ressentent des pulsions pédophiliques et qui aimeraient pouvoir être aidées et consultées à ce sujet, mais qui ne savent pas à qui s'adresser et qui ont très peur d'en parler, justement de peur d'être complètement mis au banc de la société et rejeté par leurs proches, et du coup restent tout seul avec leurs fantasmes. Et là, du coup, ne peuvent pas être traités là-dessus.
Je suis toujours très étonné, Inès Gauthier, lorsque je sais qu'au Canada, ces auteurs sont pris en charge et que, bien évidemment, on s'occupe aussi des victimes. Mais le contexte, qui est celui de la France, n'est-il pas la principale raison qui explique justement le silence de ces enfants, le fait que ces enfants ne parlent pas de ce qu'ils ont subi ?
Oui, tout à fait, parce que il y a de la prévention, on en parle beaucoup plus, il y a des affiches qui ont été faites par exemple même en Europe, mais en Allemagne par exemple, et aux Pays-Bas où il y a eu un numéro vert qui a été, alors c'est pour les auteurs justement de pulsions ou de passages là qui n'ont pas été judiciarisés, qui n'ont pas été verbalisés par les victimes, en fait, où ils peuvent eux d'aller de même consulter. Et du coup, parce qu'en France il y a quand même une bonne prise en charge pour les victimes, mais donc ça c'est bon, mais c'est vrai que comme ça reste un sujet extrêmement tabou, je pense que même les victimes elles-mêmes ont peur d'en parler. Et alors, si en plus c'est un ami de la famille qui est l'auteur, ou alors même au sein de la famille, un parent, ou un frère, ou une sœur parfois aussi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont, comme vous l'avez dit, beaucoup plus hésiter à en parler parce qu'ils ont peur des retombées, des conséquences dramatiques sur les auteurs. Et quand ça fait partie du cercle proche, ils ont une certaine loyauté, du coup, les victimes se taisent évidemment pour ne pas faire de mal. Combien de fois j'entends, c'était mon père, c'était mon oncle, c'était l'ami de mes parents, ils m'auraient pas cru. Ça aurait fait, ça aurait fait du mal à mon frère, ça aurait fait de la peine à mes parents, ça les aurait angoissés pour rien. Voilà, enfin, ils disent des choses comme ça.
Je me souviens d'un témoignage que nous avons eu il y a quelques semaines, de l'auteur d'un livre qui était autour, je n'ai plus le titre précis, mais c'est son frère lui disait, parce que les grands frères font comme ça, et que un grand frère violait son petit frère régulièrement. Justement, y a-t-il des comportements chez les enfants victimes qui peuvent alerter les parents ou les proches ?
Oui, il y a des comportements qui peuvent alerter. Alors, évidemment, il peut y avoir une dégradation au niveau de l'humeur, mais ça peut être dû à plein de choses. Donc, c'est pas spécifique aux abus sexuels.
Oui.
Donc, type tristesse, irritabilité plus grande, repli, comme on l'a vu avec Adélaïde, la personne était plutôt sociable, et puis d'un coup, elle se met en retrait, parce qu'en fait, derrière, il y a de la peur ou il y a de la culpabilité, puisqu'encore une fois, on est tellement mal informé de toute façon, et on informe tellement peu les enfants, alors que ça devrait, pour moi, faire partie de la prévention, même à l'école, la santé publique, de dire, ton corps t'appartient, ton corps est à toi, tu as le droit de ne pas être touché si tu ne veux pas, sauf si c'est pour te réparer un bobo, et encore, etc. On devrait faire beaucoup plus d'éducation là-dessus. Du coup, les enfants se disent, j'ai pas dit non, je me suis laissé faire, je me suis pas défendu, donc c'est ma faute, je dois être un peu pervers, etc. Du coup, ils ne parlent pas, et donc, souvent, on les voit se replier ou régresser aussi, régresser un peu plus bébé, à un âge un petit peu inférieur, comme s'ils revenaient dans quelque chose de plus fœtal, et qu'ils ne pouvaient plus investir leur âge actuel et le monde dans lequel ils évoluaient, parce que ce monde devenait d'un coup hostile pour eux.
Après, on trouve des troubles du sommeil, bon, typiquement des insomnies, des cauchemars ou des flashs. Alors qu'ils sont réveillés, ils vont avoir des images qui vont leur passer des réminiscences de l'acte traumatique. Ils peuvent avoir des troubles d'alimentation, arrêter de manger, oui. Au contraire, compenser et devenir même des fois dans l'obésité morbide parce qu'en fait, ils vont compenser par la nourriture le refuge affectif qu'ils n'arrivent pas à trouver auprès des adultes. Mais on a même vu que certains prendre un surpoids énorme était comme une manière de mettre une barrière physique
entre
l'agresseur potentiel.
De son enfant, à un moment, en tout cas, tout dysfonctionnement qui permet de voir que son enfant change du tout au tout, peut en tout cas mettre en alerte ses parents. Vous restez en ligne avec nous, Inès Gauthier. On va justement continuer à parler de ses parents et de voir comment ils peuvent inciter leurs enfants à parler. On va parler de cette amnésie traumatique dont parlait Adèle Haïd. Et puis, vous nous apporterez des éclairages sur ce mécanisme de défense qui est si fréquent chez ces enfants victimes de viol. Dans quelques instants, nous accueillerons Sébastien. Il a été victime d'un pédocriminel de ses 11 ans à ses 16 ans et il souhaite aujourd'hui prévenir les risques de pédocriminalité dans le milieu sportif.
Europe 1. Jusqu'à 16h sur Europe 1, nous parlons de la pédocriminalité. Nous vous écoutons au 3921. Vous réagissez, vous nous écrivez, vous posez aussi vos questions si vous le souhaitez sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Comment libérer la parole de ces enfants, de ces mineurs qui ont subi des violences sexuelles? Si vous souhaitez témoigner, 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Sébastien. Bonjour Sébastien, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour à vous.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Sébastien?
Bon, là, j'ai 40 ans.
40 ans? Bah écoutez, et c'est un bel âge.
L'association. Et non, l'association, elle est basée à Saint-Paul et Dax, dans les Landes.
D'accord. Alors, on va parler de votre association que moi, je connais déjà parce que je vous ai déjà vu intervenir de nombreuses fois. Votre association qui s'appelle les Colosses au pied d'argile, on y reviendra tout à l'heure parce que justement ce nom a vraiment beaucoup de sens, on va le voir. Mais on va d'abord raconter votre histoire, Sébastien. Vous avez été violé par le mari de votre cousine de 11 ans à 16 ans. Dans quelles circonstances cela se produisait-il?
Alors les circonstances, c'est comme tout prédateur, la base de la pédophilie, c'est l'abus de confiance et la manipulation.
Oui.
Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui des vendredis, soit des entraînements de rugby, soit des répétitions de musique. Et 5 minutes avant de me ramener, il me violait, 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents.
D'accord. Ce qui est particulièrement, en plus, je pense, quelque chose qui vous faisait souffrir, parce que là, on n'a pas un cas de mémoire ce fameux choc post-traumatique. Vous saviez ce que vous veniez de subir, et cet homme allait tout de même chez vous boire le café avec vos parents.
Ah, bien sûr, oui. Il avait la mainmise sur moi, sur la famille. Mais comme là, je suis en train d'intervenir là, dans un club de basket à côté d'Angers,
oui.
Pareil, ils ont été victimes d'un prédateur, et c'est le même profil, hein. Mm-hmm. Il était invité chez les parents, et confiance des parents, donc il a mené les gamins à droite à gauche, il leur paye le McDo, enfin... Mm-hmm.
Je profite de vous avoir au téléphone pour tous les parents qui nous écoutent, faire attention au comportement de leurs enfants et justement par rapport à ces éducateurs sportifs, parce que on ne s'imagine pas que même dans le sport comme le rugby, qui est un sport assez athlétique, mais finalement ce sont tous les sports qui peuvent être touchés. On va le voir avec vous, donc dans le milieu du rugby, mais d'autres sports sont touchés. Deux de vos amis, je crois, ont été également victimes de cet homme. Est-ce que vous le saviez à l'époque qu'il vous violait, vous, mais que deux autres étaient ses victimes?
Non, pas du tout. Il est tellement bon manipulateur qu'il... En fait, il nous avait dissocié les trois du traumatisme qu'il nous infligeait et des crimes, puisque c'est des viols. Mmh. À aucun moment, Mathieu et notre autre copain pouvaient imaginer que l'un et l'autre étaient victimes de ce prédateur, tellement qu'ils sont bons manipulateurs.
Mmh. Alors, on parlait du silence des enfants, justement, de cette difficulté à parler. Pourquoi ne pas avoir parlé à vos parents à un moment? Est-ce que vous aviez peur de leur réaction? Est-ce que vous pensiez que vous n'alliez pas être entendu?
Non, ce qui prédominait comme beaucoup de victimes, le sentiment, c'est le sentiment de honte. Après, il y a la peur de ne pas être cru.
Oui.
Et puis, il y a les menaces aussi de ce prédateur.
Qu'est-ce qu'il vous faisait comme menace?
Bon, nous, on était rugbyman et l'homosexualité avec le rugby, oui, il y a 30 ans, n'était pas du tout compatible. Mm-hmm. Donc, si tu le dis, je dis à tout le monde que tu es, enfin, on disait même PD à l'époque, oui, que tu es un homosexuel. Et donc, voilà, on n'en était, oui, pas du tout.
Le rugby donc, étant un milieu particulièrement viril, je me souviens, moi, quand j'avais 16 ans, les rugbyman, voilà, j'étais assez fin. Et c'est vrai que c'était un milieu très, très viril. Donc, c'est juste cette menace, finalement, de vous faire passer pour le mot voilà, qui vous maintenait dans cette honte, en fait. C'est à 18 ans, en fait, après les faits, que vous avez parlé pour la première fois.
Non, c'est à mes 30 ans.
C'est 18 ans après les faits, donc.
18 ans après les faits,
oui. Oui, 18 ans après les faits. Pourquoi, à 30 ans, et à qui vous vous êtes confié?
Alors, la première fois que j'en ai parlé, c'est à mon ex-femme,
oui,
qui avait voulu inviter Mathieu, donc la première victime, qui était un ami d'enfance que j'avais perdu de vue depuis 10 ans, puisqu'il était parti dans l'armée, à droite à gauche. Mm-hmm. Et il lui a dit, écoute, je viens à l'anniversaire de Sébastien sans problème, mais qu'à une condition, c'est que cette personne ne soit pas présente.
D'accord.
Donc elle est tombée des nues, puisque c'était la personne la plus appréciée du village, de la famille. Enfin, il était, c'était le clown de la famille, quoi, celui qu'on mettait au bout de la table pour, hein, parce qu'il faisait rire tout le monde.
Pour amuser la galerie, ouais.
Voilà. Mmh. Et il lui dit, mais non, tout simplement parce qu'il m'a violé. Et donc, le soir, je rentre du boulot, elle me raconte ça. Et le lendemain, parce que sur le coup, j'ai pas pu parler, même si elle était interloquée par le fait que je n'ai pas de réaction, que je n'avais pas l'air surpris, le lendemain, je lui ai tout avoué. Mmh. Alors... Je lui ai avoué que moi aussi, j'avais été victime de ce prédateur. Et pour la petite histoire, elle aussi m'a avoué du coup qu'elle avait été victime de son grand-père d'attouchement. Quand elle était plus petite, mmh, elle en avait également jamais parlé.
Mmh. On voit combien tout ça est répandu. Alors, suite à cela, bien sûr, vous avez décidé d'aller porter plainte. La procédure a suivi son cours. Cet homme a été condamné. Et lors du procès, votre avocat a utilisé les mots suivants pour vous désigner, vous, Sébastien. Colosse au pied d'argile, qui est le nom de votre association aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour vous, dans votre tête?
Regardez ce colosse au pied d'argile par tous les états de destruction qu'il est passé. Voilà ces mots. En fait, tout est dans le titre. C'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides. Donc, ouais, ça représentait bien l'image du rugbyman que j'étais. Solide, mm-hmm, fait sur des bases fragiles d'une victime.
Oui, et
donc,
c'est pour cela.
Les apparences, ouais, tout le monde peut être touché.
Mm-hmm. Une dernière question, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et il y a beaucoup d'appels au standard. Vos parents, lorsqu'ils ont appris tout cela, en fait, est-ce qu'ils.
Mon père était chasseur, donc j'imagine, je vous imagine ce qu'il a voulu faire.
Ouais.
Mais encore aujourd'hui, 10 ans après la libération de ma parole, ils sont encore dans un sentiment de culpabilité, mm-hmm, parce qu'il ne faut pas oublier que les parents sont victimes collatérales ou par ricochet, mm-hmm, de cette manipulation et l'abus de confiance. Donc tous les vendredis soirs, ils me jetaient dans la gueule du loup sans le savoir.
Ouais. Ouais.
Et si je rentrais pas avec lui, j'étais même puni. Donc c'était la double peine, quoi.
Mmh. Alors, en tout cas.
Donc, ils sont dans un sentiment de culpabilité.
Ouais, mais le colosse au pied d'argile, vous n'êtes plus ce colosse au pied d'argile, Sébastien, aujourd'hui. Vos pieds sont bien ancrés dans la terre. Vos mots résonnent à travers les collèges, à travers toutes les assistances auxquelles vous expliquez aujourd'hui, auxquelles vous racontez votre histoire. Et j'incite tout le monde, bien évidemment, lorsque vous êtes de passage dans leur région, à aller écouter vos mots, parce que vous, ce que vous avez vécu pourra sûrement éclairer certains parents qui accordent trop facilement la confiance, voilà, comme ça. Et un prédateur peut se cacher derrière n'importe quel visage voilà, angélique. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Marion. Elle a été victime pendant plusieurs années d'un agresseur qui l'a manipulée pour qu'elle se taise.
Europe 1. Des enfants victimes d'abus sexuels commis le plus souvent par un proche. C'est votre histoire, nous vous écoutons cet après-midi au 3921. Victimes de pédocriminalité, des jeunes, des enfants abusés sexuellement qui se taisent. Comment libérer la parole? Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 3921.
Et nous accueillons maintenant Marion sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marion, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Marion?
Alors moi j'ai 38 ans et je vous appelle de Perpignan.
D'accord. Quelle chance d'habiter Perpignan. L'Espagne, pas loin, le soleil. Magnifique. Alors Marion, vous aviez 8 ans lorsqu'un adolescent de votre quartier a commencé à abuser de vous. C'était un garçon que vous et votre famille connaissiez, hein ?
Oui, tout à fait, je le connaissais. Donc c'est vrai qu'on on se voyait régulièrement, surtout notamment le week-end. Et on jouait avec... mon frère était présent, on jouait au football. Enfin, on jouait ensemble, on faisait des cabanes, on s'amusait souvent ensemble, oui. Mm-hmm.
Et vous dites que dans votre famille, on ne parlait pas de sexualité. Vous ressentiez de la honte, vous aviez peur de parler de ces viols à vos parents parce qu'il y avait une sorte de pudeur qui régnait déjà chez vos parents ?
Alors oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que mes parents, jamais on a parlé de sexualité à la maison. Absolument pas. Je n'ai pas eu du tout les messages que maintenant moi, je peux délivrer à mes propres filles, qui est de leur corps leur appartient et qu'on n'a pas le droit de toucher à leur partie intime, parce que je pense que c'est un message important. Et si je l'avais su, peut-être que j'aurais pu un peu plus me protéger.
Mmh. C'est un message important. Vous avez raison de le souligner. C'est un message important à dire à ces enfants tout petits que leur corps leur appartient, et leur dire que personne, à part maman ou papa, mais n'a le droit. Et même pendant la toilette, les habituer très vite à le faire eux-mêmes. Votre agresseur utilisait le chantage pour que vous gardiez le silence. Que vous disiez, qu'est-ce qu'il vous disait, ce garçon ? Il vous faisait peur ou quel type de chantage était-ce ?
Alors, c'était du chantage en me disant que si jamais j'en parlais, ma mère allait me gronder à moi, en fait.
Mm-hmm. Il avait quel âge, en fait ? Il était beaucoup plus vieux que vous ?
Il avait à peu près, j'évalue, parce que c'est vrai que le temps quand on est en train, c'est pas évident, mais à peu près, il avait entre 15 et 16 ans, à peu près, au moment des faits, je pense.
D'accord, voilà. Oui, donc il était bien plus vieux que vous quand même.
Oui, tout à fait, au niveau du corps, etc. Lui, lui avait passé la puberté, était complètement formé, contrairement à moi qui étais une enfant, quoi. Mmh.
Vous avez gardé le silence pendant plus de 10 ans. Marion, c'est à votre meilleure amie que vous avez révélé les faits à 21 ans. Vous dites qu'à ce moment-là, c'était une question vraiment de moment choisi, et que vous l'avez choisi aussi, elle, pour lui révéler tout cela. Expliquez-moi pourquoi elle et pourquoi ce moment.
Moi, c'est vrai que j'ai pas eu une adolescence. C'est vrai qu'on l'a retravaillé après avec ma psychologue. C'est vrai que j'ai pas eu d'adolescence. Les garçons, etc., c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je voyais bien que j'étais en décalé des adolescents de mon âge. Et puis, je voyais que elle avait une adolescence un peu plus classique. Et c'est vrai que on discutait beaucoup, beaucoup ensemble.
Oui.
Et puis, il y a eu un moment où, au niveau des, un moment de confiance, et puis j'ai pu lui exprimer ça, mais c'est parce que je pense que c'était la bonne personne. Comme l'a dit Sébastien, lui, c'était son ex-femme. Enfin, c'est aussi des questions de personnes et de moments,
oui,
je pense.
Oui, oui. Des personnes en qui, tout à coup, on sait qu'on peut avoir confiance et que c'est la bonne personne qui peut recevoir ce type de choses. J'en profite pour souligner que vous avez créé une association qu'on peut retrouver facilement sur Internet, qui s'appelle Il faudra leur dire, où vous faites désormais de la prévention pour libérer la parole des enfants, des adultes sexuellement abusés pendant leur enfance, et puis pour informer les parents aussi. Vous n'avez jamais déposé plainte, mais vous n'excluez pas de le faire un jour. Expliquez-moi pourquoi, parce que vous êtes encore en mesure de porter plainte aujourd'hui.
Tout à fait. Donc moi, j'ai pas porté plainte. Je pense que déjà, il y a tout un temps aussi de thérapie, où pendant ce temps-là, c'était vraiment important de me soigner moi.
Oui.
Et puis maintenant, c'est vrai que pendant tout un temps aussi, je ne le faisais pas par rapport à mes parents,
oui.
Parce que je pense que pour eux, ils ont beaucoup été aussi dans le déni, et eux, ils sont amis avec les parents de celui-ci, donc c'est vrai que c'est compliqué par rapport, par rapport à mes parents, etc.
Est-ce que vous pensez à vous dans tout ça ? Parce que moi, je pense à vous en premier. Vos parents, en fait, même si ça n'est pas de leur faute, ils ont beau être amis avec les parents de cet agresseur, est-ce que ça vous libérerait, Marion, qu'il soit condamné ? Parce que si vous ne portez pas plainte, eh bien cet homme, on ne sait pas d'ailleurs s'il ne le fait toujours pas, puisqu'il l'a fait à 16 ans, pourquoi il ne le referait pas en ce moment ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui me pose des questions, effectivement. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants qui pourraient être en danger? Je sais que lui-même a des enfants. Enfin, voilà, ça me pose des questions. Et c'est quelque chose que j'exclus de moins en moins. Donc, je pense que j'y pense de plus en plus. Mmh.
L'instant...
Je suis encore dans les délais. Donc,
ouais.
L'instant on a 30 ans après la majorité.
Ouais. Et l'instant se rapproche et il sera sûrement très libérateur parce que ce jour-là, je pense que ça sera une manière aussi d'en terminer avec cette affaire et ce choc que vous avez subi et surtout cette agression inqualifiable. Merci beaucoup Marion. Je rappelle que votre association s'appelle Il faudra leur dire. On peut le retrouver facilement sur Internet. Et dans quelques instants, nous accueillerons Cathy. Elle a été victime d'attouchement de la part d'un oncle dans sa famille. Une famille qui, on va le voir, a décidé de ne rien dire.
Et Janine, 72 ans, témoigne au 39-21. Un homme a forcé mes deux filles à le tripoter. Je n'ai jamais osé porter plainte. Quand elles ont eu 14 ans, un procureur m'a appelé pour porter plainte. Je l'ai fait, mais rien ne s'est passé. Plus tard, un autre procureur a pris l'affaire en main en confrontant mes filles et l'homme en question, un beau-frère. Toute la famille m'en a voulu et mes filles m'en veulent toujours parce que je n'ai jamais eu la force de continuer les démarches.
Europe 1.
Des crimes sexuels commis sur des enfants, vous en avez été victime, vous témoignez au 39-21. Sur Europe 1, nous parlons de la pédocriminalité. Comment libérer la parole? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et avant d'accueillir Cathy dans quelques instants, nous sommes toujours avec Inès Gauthier, spécialiste en psychocriminologie et dans la prise en charge des victimes et aussi des auteurs de ces violences sexuelles. Inès Gauthier, je voulais savoir comment inciter une victime a parlé 10 ans après, car on entendait Marion encore hésitante sur le fait, même si elle semblait se diriger vers une plainte, elle ne l'avait toujours pas fait. Comment inciter ces victimes, même 10 ans après, même 15 ans après parce que rappelez-nous aussi quel est le délai de prescription dans votre réponse, s'il vous plaît.
Oui, non, il faut absolument inciter les victimes à parler, en fait, en libérant la parole à tout niveau. Donc, le délai de prescription était de 20 puis de 30 ans, et après la majorité.
Oui.
Et il y en a qui veulent la mettre jusqu'à la fin de la vie, donc ça, c'est encore en débat. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que en effet, les victimes ont beaucoup de culpabilité et elles ont peur des conséquences. Et elles ont souvent peur de faire souffrir, en fait, leur famille. Elles se disent, mais ils vont... Voilà, ça va trop les inquiéter, donc je vais
Marion, vous entendiez Marion, je n'ai pas envie de faire de la peine à mes parents qui sont amis avec les parents de mon prédateur.
Et voilà, donc en fait, il faut, pour moi, évidemment, avant que le mal soit fait, il faut faire de la prévention, c'est-à-dire que dans les familles, il faut absolument ouvrir le dialogue, il faut être dans la parole avec ses enfants, parce que combien de patients me disent « mes parents ne peuvent parler pas », c'est un petit peu des inconnus pour moi, donc ils n'ont pas la pratique, ils n'ont pas le bon mode d'emploi de la parole pour s'exprimer, ou même pour oser dire non quand quelqu'un les touche, et évidemment, leur dire encore une fois « ton corps est à toi, personne ne te touche là où tu n'as pas envie qu'on te touche, et dis-moi s'il y a des problèmes ». Ensuite, c'est aux parents d'être attentifs à certains signaux. Je voudrais quand même revenir sur des signaux qui peuvent alerter, autre que ce que j'ai dit précédemment.
Oui.
Il peut y avoir des trucs auxquels on ne pense pas beaucoup, mais qui peuvent être assez spécifiques. Par exemple, si l'enfant se met à faire pipi au lit d'un coup, ou caca au lit, ou alors il fait une crise de somnambulisme, puis il fait pipi au milieu du couloir en pleine nuit, comme ça. Mm-hmm. On voit des choses comme ça. Ou alors il développe des rituels de lavage. Il va se laver 30 fois par jour, au niveau des parties intimes. Mm-hmm. Au contraire, il va y avoir un évitement de cette zone. Ou il se met à avoir un langage très sexuel. Par exemple, il va avoir des jeux sexuels avec ses poupées, avec ses animaux. Il va reproduire en fait ce qu'il a vécu, et c'est une manière d'alerter les parents. De dire, regardez ce que j'ai vu, regardez ce que j'ai vécu. Pour que les parents se disent, qu'est-ce que tu es en train de faire. Mm-hmm. Et qu'on se mette à parler de sexualité. Parce que les enfants parlent de sexualité, comme on l'a dit, déjà, ils n'ont pas les mots. Donc ils savent même pas comment l'aborder. Donc souvent ils vont le mettre en scène.
Ouais.
Donc ils vont le mettre en scène soit en se mettant des maladies, des inflammations, des fois au niveau urogénital ou gastrique. Donc ils vont faire des constipations, des coliques, des diarrhées ou de l'anorexie. En gros, tout ce qui rentre et sort dans le corps, évidemment, va être un vestige de ce qu'ils ont vécu au niveau sexuel, de ce qui rentre et ce qui doit sortir du corps.
Mmh.
Et donc ça doit alerter les parents.
On
donc les parents doivent vraiment muscler leur écoute et leur attention.
D'accord.
Et ne pas hésiter à dire à l'enfant, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a fait qui était bizarre et qui ne t'a pas plu?
Mmh. Pardonnez-moi Inès Gauthier, mais nous avons Cathy, il nous reste très peu de temps. Merci pour vos éclairages, bien évidemment. Mais bonjour Cathy, merci d'être avec nous sur l'antenne
Olivier.
D'Europe 1 cet après-midi. Bonjour. J'évoquais votre histoire. Vous avez été victime enfant d'un oncle, d'un arrière-oncle dans votre famille. Comme on l'évoquait, dans 70% des cas, vous avez parlé. Et puis, dans votre famille, on a décidé de vous couper, de fermer votre bouche. Comment vous avez vécu le silence de cette famille, la réaction de cette famille qui ne vous a pas défendu?
Bah, brièvement, bon, pour faire un récapitulatif, je dirais, des événements, j'étais une petite jeune fille très ronde, hein, donc j'ai développé une puberté précoce. Hein, donc j'ai eu très vite des rondeurs, des formes de petite femme. Et bon, je vivais au sein d'une famille qui était déchirée par des conflits familiaux, particulièrement du côté de mon père.
Oui.
Et les personnes qu'on fréquentait à l'époque, cet arrière-oncle et puis cette tante étaient les seules personnes de la famille paternelle qu'on fréquentait.
Oui, mais alors pourquoi cette famille ? Pourquoi cette famille a décidé, parce que c'est vraiment, on a encore une minute Cathy, pourquoi cette famille ne vous a pas entendu ?
Je dirais que quand j'ai commencé à en parler à ma mère, elle a développé un discours à la fois incrédule d'une fille ingrate qui ne savait pas reconnaître l'affection d'un proche, hein, puisque
oui.
Cette personne a commencé à se rapprocher de moi dans le canapé en me disant « je t'aime bien ma petite chérie, mais chut, il ne faut rien dire », tout ça. Mais bon, pour moi, ce n'était pas un comportement adapté, je pressentais quelque chose. Et donc, j'ai commencé à m'en ouvrir à ma mère en ce sens. Et bon, dès lors, ça a été un discours à dire, comme on l'appelait à l'époque, comme on le surnommait, bon, parrain, il t'aime bien. Et tu vois un peu ma liste là où il n'y a pas, quoi.
Mmh.
Et par la suite, ça a été des attouchements qui ont duré à peu près durant un an et demi. Je ne savais pas comment réagir. J'étais tétanisée, je culpabilisais énormément de ne pas savoir comment faire. Et il a fallu un événement, une fête familiale, tout simplement une communion, une fête religieuse, et durant laquelle j'avais une petite amie qui était invitée durant cette fête-là. Et la personne a essayé de développer le même type de comportement.
D'accord. Et du coup, c'est là que vous avez fini par parler et que enfin cet homme a été reconnu comme étant quelqu'un qui vous touchait et cela a été enfin entendu. Mais j'ai envie de dire encore que ça a mis 5 à 6 années. Et c'est ça qui est très grave quand on entend aussi la réaction de votre maman. Merci Cathy en tout cas pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci à Adélaïde Bon, à Sébastien, à Marion pour leur témoignage sur notre antenne. Merci aussi à Inès Gauthier pour ses éclairages. La pédocriminalité est un fléau qui touche tous les milieux. Les enfants qui en sont victimes n'ont pas toujours les clés pour comprendre ce qu'ils subissent et savoir quoi faire devant ces agressions. Alors n'hésitez pas à discuter avec vos enfants pour que cela les mette bien en face de vous et qu'ils sachent que leur corps leur appartient. Bayard Jeunesse a réalisé un livret de prévention qui s'appelle « Stop aux violences sexuelles faites aux enfants » destiné aux 7-13 ans, téléchargeable gratuitement en ligne. Et si vous décelez un comportement anormal, un mal-être, un dysfonctionnement chez vos enfants, eh bien des médecins, des psychologues et de nombreuses associations comme le Colosse au pied d'argile, où il faudra leur dire, sauront vous écouter et vous guider, quel que soit leur âge. Il n'est jamais trop tard, quel que soit votre âge, pardon, oui. Il n'est jamais trop tard pour parler, car la parole vous libérera et puis aussi elle empêchera ce prédateur de peut-être continuer à sévir, parce que un prédateur qui touche des enfants, pourquoi s'arrêterait-il ? Seule votre parole peut le stopper.
Vous continuez de débattre bien sûr sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe.
Europe 1.
Demain, nous parlerons des personnes prêtes à tout par amour. Si vous avez tout quitté pour votre conjointe ou votre conjoint, si vous regrettez de vous être laissé emporter par la passion, appelez-nous au 39 21 pour nous parler de votre histoire.